Alors ouvrons le Saint-Livre. Dans Ésaïe 61, regardons ce que Jésus est venu faire et ce que Jésus veut continuer de faire. Ésaïe 61, verset 1er. Voilà ce qui se passe lorsqu'une église est baptisée du Saint-Esprit, lorsqu'une église obéit, lorsque des serviteurs et des servantes, des pasteurs, des diacres et des diaconesses vivent dans l'obéissance à Jésus-Christ. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. J'aime relire le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Amen. Vous pouvez garder ce texte. Nous allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, du verset 18 au verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Je vous rappelle pour ceux quand même qui ne connaissent pas que c'est Dieu qui parle, c'est pas Paul. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Il y aurait encore beaucoup de textes à lire, mais ce que je vais vous dire suffira peut-être. Mes frères et sœurs, Dieu voudrait agir. Ce matin, où nous vivons ce culte d'une manière routinière, habituelle, sympathique, humaine, etc. Et nous nous appliquons à bénir Dieu pour la communion fraternelle. C'est une réalité la communion fraternelle ? Bien oui. Ou alors nous allons un peu plus loin dans la profondeur. Et nous sommes à l'écoute et nous lui disons, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Bien sûr, on va louer, on a présenté cette petite, on a chanté des cantiques plus beaux les uns que les autres, on va se rappeler le sacrifice du calvaire. Mais il y a des choses que Dieu veut faire et il ne peut pas les faire. Parce que des fois, Seigneur agit, mais c'est un peu léger. Est-ce que je vais permettre au Saint-Esprit d'agir? Vous savez, quand il est dit, mais veillez, il parle au pasteur, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on peut se priver de la grâce de Dieu, là où elle est. Et Jésus a promis que lorsque nous serons rassemblés, il serait au milieu de nous. Donc il est là, vous le croyez pas, ça ne change rien. Dieu est là, par son esprit. Mais il a à me dire quelque chose. Il peut, il veut faire quelque chose. Quand je lisais cette semaine ce texte qui s'est imposé, je pense qu'il s'est imposé pour cette prédication, quand Dieu dit dans Jérémie au chapitre 2, au verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. » Alors en plus, il n'est pas dit un péché, un double péché. Vous connaissez ce texte ? Ils m'ont abandonné. Moi, la source de vivre, la source, imaginez-vous, humainement, matériellement, un gars qui a une source dans son champ, qui déborde, qui jaillit de l'eau fraîche en permanence, et que le gars, il abandonne cette source pour se creuser à la paix une espèce de mare qui va sentir qu'il y aura d'eau, il n'y en aura pas. Mais on dit, mais non, mais monsieur Hugo, c'est pas vrai, ça, c'est une image. Ah oui ? Et vous croyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas des chrétiens qui ont abandonné Jésus ? Mais non, monsieur, bon, on va à l'église tout le dimanche, ne me dites pas qu'on a abandonné Jésus. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis qu'on peut aller à l'église et avoir abandonné Jésus depuis longtemps. Et si cette eau vive ne coule plus, si cette fraîcheur ne se fait plus sentir, c'est qu'il y a un problème. Et ce matin, Dieu, il sait s'il y a quelqu'un qui est dans le désarroi, qui a besoin de vivre quelque chose qu'on a lu dans Ésaïe 61, car la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus, quand il est venu pour manifester son ministère comme on l'a lu, mais lorsqu'il est remonté au ciel, il a confié cette responsabilité à l'Église, et c'est l'Église qui a le devoir de communiquer cette grâce. C'est pour ça que nous devons nous appliquer à rester auprès des sources d'eau vive. Et aujourd'hui, dans les églises, écoutez, je vous apprends rien, on a dérivé de la prédication de la croix. Vous le saviez ? On parle de la croix, on en parle d'une manière charnelle. Quand Paul dit aux Corinthiens, justement, mais on ne connaît pas Christ selon la chair. Parce qu'il y a des chrétiens qui connaissent Christ selon la chair, d'une manière sentimentale, d'une manière humaine. C'est pour ça qu'il l'appelle Dieu Papa, etc. Je suis formel dans ce que je dis. Ce n'est pas des opinions que je voudrais imposer. Je suis formel. Et le Seigneur a demandé à l'Église de partager ces choses. Ce matin, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous passions un bon moment. Même si c'est très agréable de passer un bon moment dans une église climatisée, aérée. Est-ce que c'est bien ? Ben oui, c'est bien. Merci Seigneur. Mais mes frères, mes sœurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie ce matin ? Réellement, sois honnête, soyons honnêtes, parce que la prédication de la croix, c'est une puissance. La prédication de la croix où on honore vraiment le Seigneur Jésus-Christ crucifié. Vous allez me dire, mais monsieur, les chrétiens, on n'a pas besoin de la prédication de la croix, vous vous trompez, c'est cet après-midi que vous auriez dû prêcher là-dessus. Moi, je lis qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et je suis persuadé que si les pécheurs ont besoin de la prédication de la croix, c'est clair, ils ne peuvent pas être sauvés sans. Mais nous, les chrétiens, nous avons besoin de venir ou de revenir au calvaire. Si certaines victoires ne nous sont pas acquises, si certaines faveurs ne nous sont pas accordées, si Ésaïe 61 que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, ça reste un vain rêve. Oh, j'aimerais bien que Dieu me console. Ça fait 3 mois que je suis dans le deuil. Une dame m'écrivait cette semaine, monsieur Gros, ça fait, je sais pas, depuis 95. Je suis dans le deuil, je n'arrive pas à saisir la consolation. Il y a un problème. Est-ce que Dieu est le divin consolateur? Ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Dieu console? Est-ce que Dieu guérit? Est-ce que ce matin, c'est la volonté de Dieu de guérir? Alors, c'est vrai que moi, je suis du style... j'exagère dans ce que je vais dire. Je suis du style à dire, moi, ce qui est important, c'est le salut. C'est le salut. Vous savez, il y a des gens, ils ont été guéris 5 fois, 10 fois dans leur vie. Ils n'ont jamais donné leur cœur au Seigneur et ils sont partis en enfer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et il y a des gens qui n'ont jamais été guéris, ils ont donné leur cœur au Seigneur et ils sont au ciel. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Qu'est-ce que vous choisiriez, vous? Ben voilà. Mais moi, je suis pour ça. Mais les deux sont quand même possibles. Le salut et la guérison. Le salut est la consolation. Le salut est la victoire. Je te donnerai des vêtements. Vous avez vu? C'est pour ça que j'ai lu un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, il m'a recouvert des vêtements du salut. Vous aimez bien vous habiller? Est-ce que vous aimez bien vous habiller? Vous ne répondez pas beaucoup. Hein? Est-ce que vous aimez bien vous habiller?
Oui.
Bon. Ce matin, je crois que le Saint-Esprit, il veut vous rhabiller. Bien. Des vêtements de louange. Oui, on peut chanter comme Lucas le disait. On peut chanter dans ce monde qui va à la perte. On peut chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, parce que Jésus m'a sauvé ». Ce n'est pas du tout incompatible. Il y a la joie du salut. Elle y est, cette joie. Qui est l'auteur de la joie? La vraie joie, c'est Jésus. C'est Dieu. Un des premiers fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix et la joie. La prédication de la croix, nous avons besoin de la réentendre. Il y a des chrétiens qui ne lisent plus les évangiles, qui ne réalisent plus qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Parce que la prédication de la croix, de Jésus-Christ crucifié, elle réveille les chrétiens. Qui a besoin d'être réveillé ce matin? On ne va pas le faire parce que ça ne servira à rien, ça ne serait pas spirituel. Mais plusieurs pourraient se lever et dire « moi j'ai besoin de me réveiller ». Vous voyez, on ne le fait pas parce que ça ne sert à rien. Moi, plusieurs pourraient se lever et dire « moi j'ai besoin de sortir de ma tiédeur ». Ça tiendrait debout si on le faisait. Mais ça ne se fait pas parce que c'est entre nous et Dieu. Peut-être que plusieurs pourraient se lever et dire « Seigneur, mais moi il faut que je sorte de mon péché ». Ah bon? Il me semble que tu avais été délivré du péché. Est-ce qu'un chrétien peut retomber dans le péché? C'est le seul moyen d'être sauvé, la prédication de la croix. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, si vous voulez aller au ciel, le seul moyen, c'est la prédication du calvaire. Vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes évangélique, parce que vous avez pris le baptême dans une église évangélique, parce que vous êtes catholique, protestant ou baptiste, vous n'irez pas au ciel. Pour ça, quand vous allez arriver au ciel, on ne va pas vous poser la question « De quelle dénomination faisais-tu partie ?» T'étais baptiste ? Couloir numéro 6. Mes frères et sœurs, quand on arrivera au ciel, il nous sera demandé, qu'as-tu fait de Jésus-Christ crucifié? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Écoutez, bien sûr, c'est une façon, il faut bien exprimer les choses. Mais combien de gens s'imaginent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont baptisés? Moi, je me souviens d'un gars qui était venu de Nouvelle-Calédonie. Il est arrivé un dimanche après-midi complètement débraillé, je me rappelle. Bon, encore... Et je parle avec lui, au bout d'un moment, je lui dis, mais comment avez-vous donné votre cœur à Jésus-Christ? Parce que je voyais dans ses propos que ce n'était pas très, très profond. Il me dit, mais j'ai pris le baptême. Non mais, d'accord, j'ai dit, mais comment vous êtes passé par la repentance et la conversion? Alors ces deux mots, déjà, il a eu du mal à les comprendre. Il me dit, mais j'ai pris le baptême. Et les cinq ou six fois où je lui ai posé une question, il m'a répété, j'ai pris le baptême. Et j'ai dit, mais ce n'est pas parce que vous avez pris le baptême que vous êtes passé par la repentance. Il me dit, mais c'est pas grave. Moi, le pasteur m'a dit que si j'étais baptisé, je serais sauvé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas le baptême qui sauve. C'est la repentance qui sauve. Et quand quelqu'un est vraiment passé par une vraie repentance au calvaire, il a besoin d'obéir. Et si vous ne prenez pas le baptême, c'est que vous ne voulez pas obéir. Ou vous ne voulez pas obéir. Ou vous n'êtes pas passé par la repentance. C'est l'un ou l'autre. Mais si vous ne voulez pas obéir, ça ne tiendra pas longtemps. Et vous vous endurcirez. L'évangile, c'est le seul moyen pour qu'un homme puisse être sauvé. Le vrai évangile. Pas un autre évangile. Vous savez ce que Paul dit aux Galates? Si un ange du ciel, je veux dire, venez et nous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ça veut dire maudit. Qu'il soit maudit. Vous vous rendez compte jusqu'où il faut être sérieux? Et il y a des gens qui acceptent toutes sortes de doctrines parce que ces doctrines mettent en avant la prospérité, la bénédiction, la guérison, etc. Moi, je crois que Dieu guérit. Moi, je crois que Dieu le restaure, libère. Mais mes frères et sœurs, n'allons pas chercher un autre évangile. Il n'y en a pas d'autre évangile. Mais c'est une façon de dire que les gens se sont détournés de la croix. Et ce matin, on va prendre le pain et le vin. Mais c'est quelque chose de sérieux de prendre le pain et le vin. C'est quelque chose qui nous rappelle qu'il y a un message. Oui, il y a un message. Un message capable de sauver, un message capable de délivrer. Peut-être que vous êtes dans la souffrance. Il y a des chrétiens qui souffrent. Ça fait peine. Quand vous avez un chrétien qui est là, il est là dans son mariage. Dans son mariage. Vous n'en connaissez pas des couples de chrétiens qui ne vont pas bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait prié le jour du mariage comme on a prié pour le bébé. On avait demandé la faveur de Dieu sur la bénédiction. Tout le monde était super sapé, on était heureux. Seigneur, tu bénis ce mariage. Et les mois ont passé, et qu'est-ce qu'il y a? Et les mois, des fois les années. L'autre jour, une dame qui m'appelait, elle me dit, monsieur, elle m'appelait pour un souci, etc. Ça fait combien? Elle a divorcé, elle vient de divorcer, 7 ans de mariage. Pendant les 7 ans, elle me dit, vous avez été heureuse combien de temps? Elle me dit, rien. J'ai jamais été heureuse. Deux chrétiens baptisés qui servaient Dieu dans l'église. Il y a un truc qui ne va pas. La prédication de la croix, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication? Est-ce que vous croyez que la prédication de la croix peut délivrer? Est-ce que vous croyez que si ce matin quelqu'un est en souffrance, parce qu'il y en a de la souffrance, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas éviter un conflit dans un foyer, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Mais quand même, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui délivre. Il est venu délivrer les captifs. Pourquoi Jésus a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit est-il dans l'Église? Sinon pour nous libérer. Et moi je vous assure, mes frères et sœurs, je suis attristé, peiné, lorsque je vois des chrétiens qui sont mariés et qui sont en train de dire « Mais j'en ai marre! Je la supporte plus! J'en peux plus !» Mais est-ce que la croix du calvaire a le pouvoir de mettre la réconciliation dans un foyer? Est-ce que c'est pas ça aussi la croix? Est-ce que la croix peut tout? La croix du calvaire, pas la croix émotionnelle dont on parle aujourd'hui, tout le monde la porte, celle-là on peut la porter. Il n'y a aucun prix à payer. C'est plus le monde qu'autre chose. Et Paul l'explique. Il explique aux Corinthiens. Il explique cette vie. C'était, à l'époque, si vous regardez un peu les bouquins, vous verrez que c'était une ville universitaire, sophistiquée, intellectuelle, instruite, très commerçante. Et Paul va dans cette ville sophistiquée et il dit « Mais je n'ai voulu savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Les Corinthiens, les sages, les intellos, raisonnaient, et on l'a lu, vous l'avez lu avec moi, mais les juifs demandent des signes, les juifs disent que c'est un scandale, les grecs disent que c'est insupportable, tout ce sang qui coule, n'importe quoi. Et d'ailleurs, il le dit, mais si je suis hors de sens, il lui disait, mais tu es hors de sens. Aujourd'hui, on ne dirait pas à Paul, tu es hors de sens, on dirait à Paul, mais tu es complètement malade. Oui ou non? On lui dirait, parce qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus, quoique on peut dire à quelqu'un, vous êtes hors de sens. Il y a des mots qu'on utilise encore. Mais mes frères et sœurs, on lui dirait, mais tu es complètement fou. Pensez qu'un homme, un homme cloué sur une croix, soit le sauveur du monde. Mais pauvre Paul, mon pauvre Paul, t'as pété un boulon, comme on dit aujourd'hui. T'es malade, Paul. Et si vous aviez posé la question, mais qu'est-ce que tu prêches, Paul, d'en bas, où tu vas, à Corinthe, à Thessalonique, quand tu as été dans l'Achaïe, quand tu as été en Galatie, mais qu'est-ce que tu prêches? Je prêche que Jésus-Christ crucifié, parce que la prédication de la croix est une puissance. Et nous pouvons faire ce qu'on voudra. On peut. Alors moi, je suis pas contre que des toubibs nous disent voilà, vous, c'est vrai que vous êtes votre timidité, vous êtes introverti. Bon, mais bien sûr, chacun a notre personnalité. Mais mes frères et sœurs, la prédication du calvaire a-t-elle tout accompli? Est-ce que ce n'est pas une des paroles que Jésus aurait prononcées sur le bois de la croix, alors qu'il agonisait, alors qu'il allait mourir ? Tout est accompli. Tout est accompli pour que chaque fois qu'on se retrouvera en son nom, chaque fois qu'on se retrouvera autour de sa sainte parole, c'est pour ça que j'ai dit, mais ouvre le Saint-Livre. Il y a des gens, ils ont, la Bible, je ne sais plus, je n'ai pas le temps, je n'ai pas que ça à faire. C'est qu'il y a un problème. Si vous n'aimez plus lire le Saint-Livre, vous êtes rétrograde, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, je ne sais rien. Mais moi je vous dis que si vous n'avez plus envie de lire le Saint-Livre, vous êtes rétrograde. Vous avez abandonné la source d'eau vive. Et le Seigneur, il le sait, et il le voit, et il sait très bien, et il nous aime. D'ailleurs, la prédication de la croix, c'est quoi ? Sinon la preuve de son immense amour. On l'a chanté. Que son amour, c'est beau cantique. Vous croyez que la prédication de la croix ne reflète que son immense amour, mais aussi sa justice, parce qu'il fallait payer. Il fallait que quelqu'un paye. Et c'est Jésus qui a payé. Et il a payé cher, moi, je trouve. Très cher. Oui, c'est une folie. Peut-être que vous dites ce matin, mais la prédication de la croix, moi j'aurais aimé entendre un message, un beau message. Je suis venu, on m'avait dit qu'il prêchait bien ce pasteur, mais ça ne tient pas debout. Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin d'art oratoire, on a besoin de la prédication du calvaire. Ce matin, je ne sais pas où tu en es, mon frère, je ne sais pas où tu en es, ma sœur, mais je peux te dire que Dieu a choisi la prédication de la croix pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Oui, il y avait des intellectuels, mais les intellectuels, quand ils se convertissent, qu'est-ce qu'ils veulent, les intellectuels ? Les sages, les philosophes, vous savez ce qu'ils veulent ? Ils veulent la parole de Dieu. Quand quelqu'un est sauvé, quel que soit son niveau intellectuel, il veut la sainte parole. Quel que soit son niveau. Bien sûr, c'est un scandale pour les Juifs, parce que la loi de Dieu disait « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Donc, pour les Juifs, c'était scandaleux. Il est impossible que le Messie soit un homme pendu au calvaire, en train de dégouliner de sang. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les Juifs ont rejeté Jésus. À tel point que, alors qu'il avait passé 3 ans et demi à leur faire du bien. Quand Pilate est là, embarrassé, avec ce sauveur à ses pieds, avec cet enseignant à ses pieds, mais qu'est-ce que je ferai de Jésus ? Vous vous rappelez qu'il a dit ? Qu'est-ce que je ferai de Jésus ? On va le lire. Parce que je pense que quelqu'un a besoin de cette lecture, croyez-moi. C'est dans Matthieu, chapitre, c'est la fin de Matthieu, Matthieu 27. Il est là, Pilate, c'est le gouverneur, c'est le roi. Il est là, il aurait pu réagir autrement, mais il était bon, on ne va pas parler de Pilate, il est mort. Matthieu 27, verset 22. Lisez bien ces choses, elles ont été écrites pour que nous aussi nous puissions nous poser la question, parce que c'est peut-être la question la plus intelligente que vous vous poserez sur la terre. Qu'est-ce que j'ai fait de Jésus ? Matthieu 27, verset 22. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Regardez la réaction. Regardez la réaction. Pas à la moitié. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Tu te dis, mais c'est pas possible. Il a passé 3 ans et demi à les bénir. 3 ans et demi à des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Tu te dis, mais c'est pas vrai. Voyez à quel point on peut être aveuglé et influencé. Tous, qu'ils soient crucifiés. Ils crièrent. Ils voulaient. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. Et il dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Vous voyez, comme quoi il avait compris, mais en fait, il aurait pu faire autrement quand même. Mais la politique, vous savez, c'est difficile. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, voyez comme quand on s'enferme, ça va mal. Hein? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et je peux vous dire qu'ils l'ont payé cher cette affaire. Mais comment est-ce possible d'en arriver là? Avoir été béni, je veux bien croire que tous n'étaient pas au courant, mais quand même, toute la Judée, tout le monde entier entendait parler de ce Sauveur, de ce Seigneur, qui faisait du bien, les gens venaient de partout pour être délivrés. Et il les guérissait tous. Quand il est arrivé dans la maison des pharisiens, il est dit que, je lisais hier, il est dit que le Seigneur était là pour les guérir et les sauver. Il n'y en a pas un qui a été sauvé, à part celui qu'on a descendu par le toit. Vous savez, Jésus n'était pas là pour guérir le paralytique. Jésus était là pour guérir les religieux, les pharisiens, c'est écrit. Il était là pour les guérir. Et il n'y en a aucun qui l'a été, à part ce pauvre mec qui est descendu et qu'on a réussi à amener au pied du Seigneur. Mais qui ce matin va se retrouver au pied du Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin de sortir de mon analyse. Il me faudrait une église comme ci ou une église comme ça. Moi, l'église... Écoutez-moi, mes frères et sœurs, arrêtez avec ça. L'église, c'est l'église de la prédication du calvaire. C'est l'église où le Saint-Esprit pourra agir. Le Saint-Esprit n'agira que s'il y a la prédication de la croix. Oui, c'est un scandale. On va prêcher ça à des intellectuels, ils vont dire, mais ils sont fous. Au 21e siècle, prêcher la croix. Vous savez qu'il y a des églises, on ne veut plus prêcher sur la croix. Parce que les gens du monde, ils vont nous prendre pour des timbrés. Alors il ne faut pas prêcher la croix pour ne pas les choquer. Écoutez-moi, dans ces églises-là, il ne se passera plus rien. Si, il y aura une des associations, il y aura ce que vous voudrez, mais il n'y aura plus l'onction de Dieu. Cette source d'eau vive. Oui, Jésus-Christ a été maudit à notre place, que son nom soit béni. Parce que des fois, on dit la croix bénie. Bénie pour qui? Pour nous. Hein, sur la croix, on a des cantiques sur la croix bénie. Moi, quand je chante ça, je dis oui, pour moi. Mais pour Jésus, elle n'était pas bénie, la croix. Oui ou non? Il a pris notre malédiction. Et c'est Paul qui dit, mais si Dieu vous a donné son Fils, à combien plus forte raison vous donnera-t-il toutes choses avec lui? Et ce matin, mon frère et ma soeur, pourquoi tu es venu? Franchement, est-ce que je peux vous poser la question? Mais moi le premier d'ailleurs. Mais pourquoi je suis venu? Parce que c'est mon travail de pasteur. Il me faut préparer des sermons, il me faut fabriquer des sermons. Ou est-ce que je suis venu en croyant aussi, moi, simple chrétien, parce que vous me voyez comme un pasteur, mais je vous rassure, je ne suis qu'un chrétien. Pourquoi je suis venu dans la maison de Dieu? Est-ce que je crois que la prédication de la croix a la puissance de me faire du bien, de bénir mon foyer, de bénir mes enfants, de bénir ton couple, de te sortir peut-être de l'alcool? Il y a des chrétiens qui sont retombés dans l'alcoolisme. Vous n'en avez jamais entendu parler? Des chrétiens qui sont retombés dans tel travers. En plus, quand on voit les paroles de l'apôtre Pierre par rapport aux chrétiens qui rétrogradent, c'est pire puisqu'il dit que leur condition est 7 fois pire. C'est pour ça que vous voyez des rétrogrades et vous dites, mais c'est pas possible, ils se sont jamais convertis. Si, mais ils se sont surtout tombés dans les pièges du diable. Alors on est dans un monde, on aime politiser, vous avez vu les politiciens comment ils sont. On aime philosopher, c'était la mode à Corinthe, c'était la mode à Thessalonique. Ça a toujours été comme ça. Les hommes, ils aiment la sagesse, alors il n'y a pas de mal à avoir de la sagesse. Je fais la différence entre la sagesse spirituelle, qui consiste à voir comme Dieu voit, l'intelligence spirituelle qui consiste à comprendre les choses comme Dieu les dit, et puis l'intelligence, l'instruction, c'est pas mauvais là, en soi, mais c'est pas ça qui sauve. L'intelligence ne peut pas sauver quelqu'un, la philosophie ne peut pas sauver quelqu'un, une religion, toutes les religions sans la croix sont mauvaises. Toutes, elles ne servent à rien. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu pose des questions, mais où est le sage? Il pose la question, mais où est le sage? À quoi ça sert? Où est le raisonneur de ce siècle? Il le dit, vous l'avez vu avec moi. Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi ça sert? Et Paul est catégorique, le monde n'a pas connu Dieu avec sa sagesse. Et la sagesse ne nous amènera pas, croyez-moi, à connaître Dieu. Ce qui vous amènera, ou nous réamènera à connaître Dieu, c'est la prédication de la croix. Vous voulez connaître le Seigneur? Combien, moi je vous assure, mais... Avant-hier, j'ai reçu un mail. Je vous le dis pour que vous compreniez le désarroi. Une femme de pasteur qui me dit, Monsieur Hugo, priez, mon couple est en vrac. Priez, un couple de pasteurs. Alors je me demande comment va être l'église dans quelques semaines. Alors que nous avons un Dieu qui dit « Je suis venu délivrer les captifs. Je suis venu changer vos habits sales en vêtements de louange. Je suis venu vous donner la consolation tous les affligés. » Je ne sais pas ce qui vous affligeait. C'est un deuil, c'est une contrariété. Il n'en faut pas... Tous les affligés, il ne dit pas les plus atteints. Tous les affligés, je ne sais pas ce matin, je le pense au foyer, parce que dans l'église, on a trois ou quatre couples qui battent de l'aile. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, surtout quand on a la solution. Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que le Seigneur joue à cache-cache? Ou est-ce que si on dit, Seigneur, mais je te demande du pain, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Si vous demandez du pain, il ne vous donnera pas. Comment? Il ne vous donnera pas une pierre. Mais pourquoi on ne lui demande pas du pain? Le Seigneur a dit, si vous lui demandez du pain, il vous donnera du pain. Nous, on le fait. On le fait à nos enfants. Si un enfant nous demande ceci, on lui donne des fois, il nous demande 50 euros, bon, on lui donne que 15. Mais quand même, pourquoi je ne serai pas ce matin au bénéfice de cette onction? Oui, c'est la croix. C'est la prédication de la croix. Je reviens au calvaire. Mais je reviens vraiment. Et là, au calvaire, il va se passer des choses. Je regardais hier tout ce que l'apôtre Paul a écrit sur le calvaire. Il n'a pas vu le calvaire, lui. Il l'a pas vu. Jean l'a vu. Mais il l'a pas vu. Et pourtant, s'il y en a un qui a reçu une révélation par rapport au calvaire, c'est l'apôtre Paul. Il ne l'a pas vécu. Il n'y était pas. Mais il a reçu une révélation, c'est extraordinaire. Comment il comprend la croix? Comment il réalise que la croix va nous amener à des victoires? Bien sûr qu'à la croix, je vois mon péché, ça c'est clair. Quand je vais à la croix, aïe, 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 je vois ça. Il n'y a que là. Je vais au calvaire, je me tiens là, devant ton sang précieux. Je me tiens là, Seigneur, mais tu me montres ma dureté. Je suis trop dur envers l'église que je dirige, je suis trop dur avec ma femme, je suis trop dur avec mes enfants. Est-ce que ça peut arriver de se faire piéger? Seigneur, redonne-moi cette tendresse. Est-ce que si vous demandez à Dieu de la tendresse, il peut vous donner de la tendresse? Oui, mais il ne va pas le faire. Il va falloir une restauration, une guérison. Et c'est pour ça qu'on doit être sérieux. Moi, je suis attristé quand je vois la quantité de chrétiens qu'on a dans nos églises qui sont devenus religieux. Ils sont là, ils sont intéressés par un truc ou par la bénédiction, mais ils ne sont pas intéressés par la croix. La croix, non, mais la croix, c'est bon, c'était bon, la conversion, c'est bon, je suis mort au péché. Pardon? Pardon? Je suis mort au péché? Parce qu'il est dit que quand on a été baptisé, c'est en sa mort qu'on a été baptisé. Oui ou non? Ouais, c'est pas possible. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Et voilà le problème. C'est que je voulais poursuivre ce que j'ai commencé dimanche dernier sur le disciple. Et moi, je me préparais à prêcher sur un texte qui parle « Vous êtes mes disciples ?» Si. Et j'ai compris qu'il était hors de question que j'aille plus loin dans la vie de disciple si nous ne venions pas au calvaire. Parce que si quelqu'un veut être un disciple du Seigneur, il faut qu'il aille au calvaire. Il faut qu'il revienne au calvaire. Et si Dieu m'a mis à cœur cette prédication, c'est qu'il y a des frères et sœurs parmi nous qui ont besoin de revenir au calvaire, au précieux sang de Jésus. C'est écrit que le sang de Jésus, il est précieux, parce que le sang de Jésus, il n'a pas été touché par le péché. Le sang de Jésus, il n'a pas été souillé. Le sang de Jésus, il est précieux, plus que tout ce qui existe. Une seule goutte de son sang peut sauver l'humanité entière, que son nom soit béni. Cette histoire de sang, ça contrarie les gens, ça répugne. Il y a des gens, oh, j'ai vu un chat écrasé, tout ce sang, ça m'a dégoûté. Mes frères et sœurs, je comprends bien qu'il y a des choses qui nous répugnent, vous et moi, oui. Mais le sang de Jésus ne doit pas nous répugner. Le sang de Jésus, il doit nous faire comprendre qu'il fallait que justice soit faite. Il fallait que le Fils de Dieu meure. Croyez-moi, il aurait pu l'éviter. Il était le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Oui ou non? Jésus est-il le Tout-Puissant? Isaïe prophétise, il dit, voilà comment on l'appellera. On l'appellera Père éternel, conseiller, Dieu puissant. Il est le Tout-Puissant. Et ce matin, ne vous débattez pas. Oh, il faudrait que j'aille à un séminaire sur la croissance pour faire grandir mon église. Il faudrait que j'aille à un séminaire sur le leadership pour voir quels sont les jeunes qui sont à même. Ah, celui-là, il est super bien, il a un doctorat comme Janson. 3 doctorats, c'est bien ça? Alors, Janson, on va l'utiliser. Est-ce qu'on va utiliser Janson parce qu'il a 3 doctorats ou est-ce qu'on va l'utiliser parce qu'il a un cœur pour le Seigneur? Et on est là dans nos calculs, on est là dans nos réflexions, alors que c'est à la croix que tout s'accomplit. Mes frères et sœurs, les Corinthiens, ils n'avaient pas compris. Mais Paul n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Et mes frères et sœurs, on ne va pas changer d'avis pour faire plaisir aux chrétiens charnels, ou aux chrétiens mondains, ou aux chrétiens qui ne sont même pas convertis, parce que des fois ce sont eux qui viennent me trouver pour nous dire comment il faut prêcher. Oui, 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 oui. Un jour, il y a un chrétien qui est sorti, il m'a dit, monsieur, oui, il faut que je vous parle. Ah bon? Si vous voulez que votre église grandisse, ne parlez plus jamais de l'enfer. Et j'ai dit, ah bon, et comment vous vous êtes converti, tout ça? Ah, il m'a expliqué tout. J'ai dit, mais il faut parler du paradis et il faut parler de l'enfer. Dieu bénit toute sa parole. Vous voyez comment les gens, ils calculent comment on va gagner des âmes. On gagnera des âmes par la prédication du calvaire. Et si vous voulez aller au ciel, il vous faudra passer par le calvaire. Il vous faudra passer par le sang précieux de Jésus. Car l'apôtre Jude dit, malheur aux hommes qui ont suivi la voie de Caïn. Et Caïn, il a voulu offrir un sacrifice selon sa façon. Et Dieu dit qu'il a rejeté ce sacrifice. Et il a accepté le sacrifice d'Abel, parce qu'Abel a offert un sacrifice sanglant qui rappelle le sang, qui prépare, l'enseigne, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, et quand on voit que la Bible dit, parce qu'Abel après il a été assassiné par son frère, vous voyez quand on est jaloux, où ça peut mener? Il est dit que le sang d'Abel parle encore aujourd'hui. Alors mes frères et sœurs, écoutez, si le sang d'Abel parle, je pense que le sang de Jésus-Christ devrait parler. Encore ce matin. Et que tu puisses dire, Seigneur, je sais où est la victoire. Oui, je verrai mon péché. Oui, je sais, il va falloir que je le règle. Je me suis disputé avec Monsieur de Dieu. Il faut que j'aille demander pardon. C'est pas le cas, mais est-ce que c'est difficile que ça d'aller demander pardon? Ou est-ce que c'est l'orgueil qui nous... Ou est-ce que c'est le diable qui se marre? Mes frères et sœurs, le sang de Jésus, il doit te parler. Il doit continuer à te parler. Oui, il est précieux. Dans l'Apocalypse, il est dit, en parlant des chrétiens, ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Vous voyez? Les chrétiens... Ils seront victorieux, ils ne seront pas victorieux par la psychologie moderne, je ne suis pas con, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ils seront victorieux par le calvaire, parce qu'au calvaire, il y a la délivrance, au calvaire, il y a la victoire, au calvaire, il y a la consolation, au calvaire, il y a la paix. Vous ne croyez pas que c'est un luxe aujourd'hui d'avoir la paix? Et pourtant, le Dieu le donne. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Il y a une richesse. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. C'est Paul qui dit, mais vous avez tout pleinement en lui. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on a tout pleinement en lui? Qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et le diable, bien sûr, il essaie de nous tirer vers le bas. Pour nous empêcher de nous plonger dans ces fleuves, pour nous empêcher de venir au calvaire. Et il y a des chrétiens qui sont mais complètement, complètement en vrac. Moi, je voyais des chrétiens, ils sont toujours désespérés, toujours découragés. Ça m'est arrivé de l'être, je ne vous inquiétez pas. Mais entre avoir le cafard 5 minutes et puis être découragé depuis 3 ans, vous croyez quand même qu'il y a une petite différence? Que son sang retombe sur nous. Il fallait être fou. Il faut être fou pour dire un truc pareil. Il faut être fou. Ils sont fous. Les hommes sont fous. Jésus l'a dit. Paul l'a dit. Dieu l'a dit. Les hommes sont devenus fous. Et ça ne va pas s'arrêter. Ça va pas s'arranger. Mais l'Église, elle peut amener la bénédiction. C'est clair, le verdict, il est là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi là ce matin, la gloire de Dieu, concrètement, c'est quoi?
Eh bien, peut-être que tu retrouves la paix de Dieu. La réconciliation, j'en parlais tout à l'heure avec ton mari. Eh bien, la réconciliation, c'est la guérison. Seigneur, guéris mon cœur. On le chante des fois. On a des super cantiques sur la guérison. On a des beaux cantiques, oui ou non? Mais est-ce que Jésus peut guérir mon cœur ce matin? Est-ce qu'il a le pouvoir de poser sa main? Vous rappelez cette femme? Cette femme qui était là dans la foule, qui était malade depuis 12 ans. 12 ans, elle perdait son sang. Et quand elle a entendu que Jésus passait, il était, je ne sais pas, moi, 100 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre, personne ne le sait. Et elle a dit, il faut que je touche le bord de son vêtement. Elle avait une idée intelligente. Il faut que je touche le bord de son vêtement. Je suis fatigué, je suis épuisé, mais ça fait rien. Il passe, il est là, il passe, je ne peux pas le louper. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, si ça a pris 3 secondes, si ça a pris 3 minutes, si ça a pris 1 heure. J'en sais rien, si elle a joué des coudes, si elle s'est faite gronder par les gens qui lui disaient « Mais arrête de nous pousser !» Elle avait un objectif, il fallait qu'elle touche le vêtement de Jésus. Ça a duré, c'est une histoire, moi j'aimerais la voir cette histoire, on n'a aucune vidéo, rien. Si vous l'avez, je vous l'achète. Le prix que vous voulez. Et quand elle est arrivée, elle, je ne sais pas si elle est arrivée à genoux, en tombant, je ne sais rien. Mais quelle histoire. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, 6 ans après, je crois, elle a été guérie. Comment? Vous êtes sûr? Ah bon. De suite, elle a été guérie. Et Jésus s'arrête. Imaginez la scène. Le Seigneur du ciel qui s'arrête pour une pauvre femme. Il s'arrête. Qui m'a touché? L'apôtre Pierre, spontané. Écoute, Seigneur, tout le monde te touche et tu demandes qui t'a touché? Elle n'est pas belle cette histoire? Qui m'a touché? Tout le monde le touchait. Vous voyez, c'est ça la religion. On le touche le dimanche, on touche le Seigneur, on est là dans sa maison, mais rien ne se passe. Est-ce que vous aimeriez que Jésus s'arrête dans votre vie? Et cette femme toute tremblante, elle devait claquer des genoux, des dents, je ne sais rien, elle s'est mise à genoux et elle a tout raconté au Seigneur. C'est pour ça qu'on sait cette histoire. Et le Seigneur lui a dit, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée. Non seulement elle était guérie, mais en plus elle était sauvée. Il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, guéris-moi. Je prendrai le temps qu'il faut pour que tu me touches. Il y a des gens, ils sont capables pour se reposer, de partir aux extrémités de la terre. Il n'y a pas des gens qui prennent l'avion, ils font 10 heures de route, d'avion. Oui ou non? J'ai besoin de me lâcher. Il faut que je... Comment ils disent maintenant les gens? Il faut que je me détende. Moi, je vous dis, béni soit Dieu pour nos repos, pour nos congés. Merci Seigneur. C'est une bénédiction d'avoir des congés. Mais je crois que la plus grande détente, elle est dans les bras du Seigneur. Que vous soyez en pleine activité ou en plein repos, la plus grande détente, c'est dans les bras de notre cher Sauveur. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Alors le péché, il est là. Au calvaire, il y a cette dimension de péché, c'est vrai. Mais il y a quand même la dimension de victoire. Et Dieu nous laissera libres. Comme ces deux brigands, deux criminels, qui ont eu, j'ai presque envie de dire, le privilège de mourir à côté de Jésus. C'est un privilège ? On est comme ces deux brigands, le matin, ils étaient là, ils savaient qu'on allait les crucifier. Ils n'ont pas dû dormir, je ne sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas s'ils ont dormi. D'ailleurs, les 3 ou 4 dernières nuits, ils devaient peut-être devenir un petit peu fous. Vous vous rendez compte si vous deviez mourir comme ça? Parce que nous, on est là, on ne calcule pas trop. Ils se sont retrouvés, ils l'ont insulté, tous les deux. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, Jésus viendrait, il prêcherait la croix. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui dans le monde si Jésus revenait? Il se mettrait sur la place du Capitole, il prêcherait, qu'est-ce qu'on ferait? Comment? Non, on va le rejeter. Et ce brigand-là, ce brigand, un de ces brigands qui se tourne vers lui et qui dit à l'autre qu'il est insulté. Qu'il est insulté. Ne crains-tu pas Dieu? C'est peut-être là qu'on voit les gens qui ont été au calvaire. Vraiment, cet homme qui était un criminel blasphémateur, tout d'un coup, il dit à son collègue, ne crains-tu pas Dieu? Et moi, je crois que quand on va au calvaire, la crainte de Dieu vient. Amen. Le respect de Dieu vient. On ne connaît pas Christ, comme dit Paul aux Corinthiens d'ailleurs, dans la deuxième épître, selon la chair, on le connaît selon l'esprit. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, car pour nous c'est justice, car nous méritons ce qu'on fait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et se tournant vers lui, il prie, sans prier, souviens-toi de moi. S'il y en avait un qui méritait quand même l'enfer, parce qu'il avait quand même tué des gens. Jésus aurait pu lui dire, c'est maintenant? C'est maintenant que tu y penses? Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? Et en plus, ce n'est même pas une prière, c'est pas une prière conventionnelle. C'est une prière qui correspond pas à grand-chose. Mais Jésus l'a compris. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire qu'il a compris, il a tout compris. Parce qu'au calvaire, Dieu nous éclaire. Vous le croyez qu'au calvaire, Dieu nous éclaire? Au calvaire, vous voyez, 5 minutes avant, il ne comprenait rien. C'était un blasphémateur. Tout d'un coup, la crainte devient... Il comprend. Quand tu viendras dans ton règne, c'est loin, ça. Parce qu'il n'ose pas trop demander de suite. Mais Jésus lui dit non. De suite. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Moi, je crois que Dieu est bon. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais moi j'ai besoin de cet attouchement, on va fermer les yeux, frères et sœurs. Moi j'aimerais que ce matin le Seigneur puisse faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a longtemps qu'il veut guérir. Il y a longtemps qu'il veut amener un couple à la réconciliation. Alors il nous reste demi-heure, on va séparer cette demi-heure en deux. Le dernier quart d'heure pour la Sainte-Cène. Et ce quart d'heure pour un moment de prière. D'attouchement divin. Vous savez, si Jésus a béni ce criminel qui ne méritait que d'aller en enfer, mais enfin non, de toute façon, on est tous perdus. On mérite tous l'enfer, mais le sang de Jésus nous délivre de l'enfer. Alors qui ce matin veut ressortir avec des vêtements blancs? Qui veut ressortir avec des vêtements de salut, avec le manteau de la délivrance? C'est ce que Jésus te propose ce matin. Est-ce que tu es d'accord pour faire un échange? Qui ce matin a besoin d'une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est réentendre la prédication de la croix, mon frère. Qui a le cœur brisé? Qui est captif? Prisonnier de la pornographie, je ne sais pas. Qui est esclave de l'alcool, de la drogue, de la méchanceté? On n'en parle pas souvent de la méchanceté. Et pourtant, combien de chrétiens sont méchants parfois? Il délivre les prisonniers. Il console tous les affligés. Un diadème au lieu de la cendre. Vous rendez compte, mes sœurs? Imaginez votre tête pleine de cendre et que vous ressortiez coiffé avec un diadème, avec des diamants dessus, des pierres précieuses. C'est ça, la grâce. Qui veut ressortir enrichi? Une huile de joie, un vêtement de louange. Voilà le plan, voilà la croix. Et je voudrais qu'avec beaucoup de respect, peut-être une, dis mais moi j'ai besoin de guérison. Dans mon corps, parce que là ça touche tout, ça touche le salut, l'âme, l'esprit pardon, ça touche le côté psychique, l'âme, et ça touche le corps. Tout est incorporé dans Isaïe 61. Qui a besoin de délivrance? Eh bien, venez sur le devant. On reste recueillis. Vous comprenez bien que c'est un peu sérieux, cette affaire. Et des frères viendront. Il y a Janson. Il y a Monsieur de Dieu. S'il vous plaît. Si quelqu'un a besoin de délivrance, de guérison. Si un couple, venez. Venez avec votre femme, peut-être même la main dans la main. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte.